On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Se reconvertir, mais dans quoi?
La formation de cuisinier est accessible à tout public, du moins que les personnes sont motivées, parce qu'il y a beaucoup de contraintes sur ce métier, contraintes horaires, fatigue, etc.
Je suis trop jeune, je suis trop vieux, il est trop tard, il est trop tôt, je n'ai pas de compétences.
Il n'y a pas besoin de prérequis particuliers pour faire ce métier.
J'ai jamais eu beaucoup de préférences, mais faire les desserts, c'est quelque chose que je faisais avec ma grand-mère, donc c'est quelque chose que je fais depuis toujours chez moi. C'était un peu le baquet, c'était plus pour faire plaisir à mon père et qu'il soit content. Mais après, c'est la cuisine, c'était vraiment ce que je voulais faire plus tard.
Ben, ils reviennent faire le métier qu'ils auraient voulu faire depuis longtemps.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Tout plaqué pour devenir cuisinier, pâtissier, maraîcher, boulanger, faire son cooking out à 30, 40 ou 50 ans. C'est peut-être un rêve ou un fantasme pour vous qui nous écoutez, mais c'est aussi une réalité sociologique. Les métiers de bouche offrent de nouveaux débouchés pour de plus en plus d'actifs. Du bureau au fourneau, la reconversion culinaire. On décrypte ce phénomène de société avec deux convertis qui ont changé de vie. Soukeng Viera, bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Vous meniez une carrière dans le luxe et vous avez décidé de devenir pâtissière. Vous allez nous raconter cette incroyable aventure, parfois semée un peu d'embûches, on va le voir. Et preuve que vous êtes une authentique pâtissière ou que vous vous apprêtez à le devenir. Deux desserts qui nous narguent sur le plateau dont on va déguster. Je vous laisse les présenter.
Alors des cookies sans gluten, au chocolat noir, noix de pécan et cranberries. Oui. Et une tarte au citron revisitée avec de la meringue italienne, des suprêmes de citron vert et du citron caviar également.
Super, car on va voir que le sans gluten est au cœur de votre création pâtissière. Oui. Paul Vincent, bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Arrêter ses études de droit pour passer son CAP cuisine en candidat libre, c'est le destin que vous vous êtes choisi et Exactement. Que vous allez nous raconter. Vous avez signé le cuisinier en candidat libre aux éditions Marabout. C'est avec les photos de Édouard Ducos et vous nous avez même préparé deux recettes extraites de ce livre.
Tout à fait. Pour commencer, on a des poires en vinaigrette, tout
ouais.
simple, super bon.
J'aime ça, j'ai faim.
Avec un petit œuf mimosa dessus, une bonne vinaigrette classique, toute simple.
D'accord.
Et après à suivre, un gigot d'agneau,
ah.
cuit 5 heures avec une petite marinade. Donc je vais vous dévoiler le secret.
Magnifique, j'en connais certains qui vont être contents autour voilà. de ce plateau. Elle est patronne de la librairie gourmande et elle vient souvent mettre son grain de sel dans l'émission. C'est Déborah Dupont, bonjour.
Bonjour.
Et de surcroît, vous êtes vous aussi une authentique reconvertie.
Tout à fait, le droit mène à tout à condition d'en sortir. Donc effectivement, moi j'étais allée jusqu'à la thèse et quelques années d'enseignement avant de tout plaquer pour...
Ah, vous êtes allée loin quand même.
Oui, je suis allée loin.
Enseignante en droit reconvertie dans la librairie gourmande, en voilà un beau destin. Et aujourd'hui, évidemment, des livres pour nous aider à passer le CAP.
Exactement, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, il existe des bibles pour se reconvertir.
On va voir ça avec vous, Déborah Dupont, notre chroniqueur vin. C'est Jérôme Gagnès aujourd'hui, bonjour.
Bonjour à tous.
Jérôme, vous nous racontez aujourd'hui une très belle histoire.
Oui, une reconversion, c'est le thème. 30 ans, il boit pas de vin, il bosse à Paris dans la com, il plaque tout et 10 ans plus tard, il fait du très joli vin.
Et en plus, il fait du bon, absolument, ouais. un reconverti qui devient un bon vigneron. Laurent Thomas, Élise Christophe, Nadia Chougui derrière la console. Pour réagir dans l'émission, on va déguster à radiofrance.com ou un petit tweet avec le hashtag on va déguster pour les recettes de nos invités et le podcast de l'émission franceinter.fr à la page on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Mon adresse de la semaine, ça vous dit ou pas?
Allons-y.
Cap au Nord, je vous emmène à Lille. Ou plus exactement à Lambersart, c'est une commune qui jouxte Lille, considérée un peu comme la banlieue huppée de la métropole lilloise. Et sur l'avenue de l'Hippodrome, entre les splendides villas art déco de style balnéaire, c'est quand même un vrai festival d'architecture, en plus c'est gratuit, ça vaut le coup d'œil. Et bien dans cette avenue se cache un ancien estaminet dont les vitraux d'époque portent encore l'étoile des brasseurs. C'était un vieux troquet où on faisait des paris hippiques, on est quand même avenue de l'Hippodrome, en sifflant de la bibine. Depuis un an, c'est l'une des recettes les plus réjouissantes du paysage gastronomique lillois, une déco contemporaine mais très confortable, tout en menuiserie de chêne brut et en cuir, une salle de 28 couverts où rayonne, avec beaucoup de compétences et de charisme, Inès Rodriguez, fort de ses très nombreuses expériences dans de grandes maisons à travers le monde. Et en cuisine, c'est son mari qui s'y colle, Ismaël Guerre-Janton. Ismaël Guerre-Janton, retenez ce nom. Il façonne une cuisine intelligente, inspirée de diverses expériences chez Michel et Sébastien Bras à l'Aïeul ou chez le meilleur ouvrier de France 3 étoiles, Emmanuel Renaud à
Megève.
Waouh, ils connaissent leur cartographie gourmande. C'est quoi une cuisine intelligente? Eh bien, c'est tout simplement une cuisine singulière et personnelle qui ne regarde pas dans l'assiette du voisin, c'est-à-dire qui reprend pas, vous savez, de temps en temps les tics de toc, comme je les appelle, qu'on observe un peu partout. C'est au contraire une cuisine de conviction, très personnelle et enracinée dans le terroir nordiste à 80%. Une partie de ses légumes viennent de chez Dries de la Notte. C'est un maraîcher bio formidable. Vous savez qu'il y a le domaine du monde des mille couleurs en Belgique. Faut passer un peu la frontière, mais il fait des choses absolument épatantes avec des variétés anciennes de légumes. Les poissons, évidemment, viennent de la criée de Boulogne-sur-Mer. Le pigeon vient de Stenvoorde, à 30 minutes en voiture du restaurant. Et l'un de ses plats signatures, justement, c'est son magnifique pigeon à la bière. Écoutez bien, une poitrine rôtie, tendre et rosée, un jus. Mais alors, sapide, profond, vous savez, du genre un peu collant le jus.
Sirupeux, oui.
Oui, un peu sirupeux, mais épatant, d'une gourmandise folle. Et la bonne idée pour donner à ce pigeon l'accent du Nord, c'est un pralin de malt pour la croustillance et un gel doux amer de bière brune pour la complexité. Cerise sur le gâteau, la cuisse du pigeon est servie en tempura. Définition de tempura, Paul Vincent?
Un petit beignet japonais.
Bravo, petit beignet japonais et parfumé à la bière, figurez-vous.
Ah bah génial.
Je me souviens aussi d'un très beau mariage terre-mer entre la Saint-Jacques de Boulogne et la betterave fumée. Franchement, très bien. Je vous ai confié, Jérôme Gagnès, la carte des vins de ce restaurant dont je vais bientôt dévoiler le nom.
C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça a l'air d'être très bon. Et la carte des vins a l'air de bien tenir la route. Et il y a en particulier une cuvée que j'ai repérée parce que c'est un vin absolument fabuleux. Ça s'appelle Efata. C'est un Anjou blanc du domaine du Clos de l'Élu, dans le millésime 2015. C'est pour moi, honnêtement, un des grands chenins du millésime 2015.
Magnifique.
Un domaine extraordinaire à suivre, parce que ce sont des gens formidables, Charlotte et Thomas Carcin. Et en l'occurrence, c'est une joie de retrouver un si beau vin à la carte.
Voilà, il figure sur cette carte. Il se pourrait bien qu'Ismaël Guerre-Janton et Inès Rodriguez, son épouse, laissent leur empreinte à Lille. Ça tombe bien, parce qu'empreinte, c'est le nom de leur restaurant, empreinte au singulier, 170 avenue de l'Hippodrome à Lambersart, juste à côté de Lille, avec une première formule au déjeuner à 26 euros. Une reconversion professionnelle dans les métiers de bouche. C'est juste après Je veux tes yeux de l'artiste belge Angèle, choisi par Djoubaka. On a faim sur France Inter.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. 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 Seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux. Sans sentir ta peau, je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux. Sans sentir ta peau.
Vous êtes bien sur le plateau dont on va déguster sur France Inter. On est le dimanche 25 février. Plaquer sa carrière de cadre, de banquier, de trapéziste ou de conducteur de péniche pour devenir cuisinier ou pâtissier, troquer une vie de bureau contre une vie au fourneau. Alors on a tous autour de soi évidemment des exemples de reconversion professionnelle dans un métier de bouche, c'est même devenu un vrai phénomène que confirment de nombreuses statistiques et nous avons deux exemples autour de ce plateau. Intéressons-nous d'abord à votre déclic, à ce petit rien ou ce grand chambardement qui fait qu'un jour, on décide de plonger dans la marmite. Alors, Soukeng Viera, vous avez 36 ans. Je me permets de trahir votre âge pour que nos auditeurs comprennent votre parcours. Vous êtes né en France d'une maman chinoise et d'un papa chinois cambodgien.
C'est bien ça.
Vous êtes mère de deux enfants. Vous êtes diplômé d'un master de marketing. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans le secteur du luxe. Et tout d'un coup, que s'est-il passé ?
Alors, il s'est passé pas mal de choses. Suite à la naissance de mon deuxième enfant, je suis donc revenue dans mon entreprise et il s'avérait qu'il y a eu beaucoup de chamboulements. Donc, licenciement économique.
Non,
oui.
Est-ce légal ?
Après mon congé parental, c'est légal.
Ah, après un congé parental ?
Oui,
d'accord.
Ce n'était pas un congé maternité. Donc,
d'accord.
J'ai fait le choix de prendre un congé parental de 7 mois. Et à mon retour, donc, gros chamboulement, plus de poste pour moi. Et au même moment, j'apprends que je suis intolérante au gluten.
Aïe.
Et oui.
Donc, désordre de santé
à cause de
ce fameux gluten.
Exactement. Donc, désordre pendant un certain nombre de mois. En fait, suite à l'accouchement, j'ai eu des désordres, voilà, au niveau digestif. Et donc, le déclic, c'était ça, en fait. Parce que moi, j'adore cuisiner, j'adore faire des gâteaux depuis que je suis toute petite.
Oui.
Et je me suis dit, mon première semaine, je savais plus quoi faire, plus quoi manger. Je me suis dit, oh, plus de pâtes, plus de pain, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ? Alors, je me suis dit, bon, tu sais faire à manger, tu sais faire des gâteaux. Allons-y, lance-toi.
Mais a priori, on pourrait se dire que un handicap lié à votre alimentation, l'intolérance au gluten, on sait à quel point ça peut être gênant dans la vie au quotidien.
Oui.
Ça pourrait a priori plutôt vous éloigner d'une carrière de pâtissière ou dans un métier de bouche.
Eh ben pas du tout. Moi, je l'ai pris comme un challenge en fait.
Wow.
Je me suis dit j'ai envie de retrouver les saveurs que j'avais avant. J'ai envie d'essayer de travailler des recettes pour pouvoir retrouver cette sensation de croustillant, de croquant, voilà, et de pas sentir que c'est du sans gluten en fait.
C'est ça.
Du coup. J'ai beaucoup travaillé à la maison de mon côté pour essayer de développer certaines recettes, dont mes cookies, que vous allez pouvoir déguster tout
Mais
à l'heure.
Mais avec un immense plaisir.
Et le déclic, c'est aussi le soutien de mon mari. Mon mari qui m'a dit, c'est le moment ou jamais, tu devrais te lancer.
Il faut évidemment le soutien des siens, de son amoureux, de son amoureuse, pour entreprendre un virage aussi radical, ça a été votre cas.
Oui.
Alors on se rend compte, on va bien entendu écouter votre témoignage dans un instant pour que vous nous racontiez la façon dont vous avez décidé de mettre en œuvre cette reconversion professionnelle, car il faut évidemment se renseigner, faire des démarches, suivre une formation, éventuellement passer un diplôme, c'est ce que l'on va voir avec vous. Mais juste avant le témoignage de celui qui est en face de vous, Paul Vincent, qui lui aussi a vécu ce grand chambardement, un Lyonnais de 27 ans. Vous aimez la cuisine depuis votre plus jeune âge. Difficile en même temps d'en être autrement dans une famille de Lyonnais. Hein.
Bien sûr.
Je sais de quoi je parle.
Quand le rendez-vous du dominical est au hall Paul Bocuse.
C'est ça, voilà. Donc forcément, vous êtes évidemment éveillé aux bonnes choses. Sauf que papa et maman vous encouragent à faire des études de droit. Vous passez 2 ans à l'université Lyon 3. Et vous vous dites tout d'un coup, un jour, ce n'est pas fait pour moi.
Non.
Peut-être aussi aidé par un oncle qu'on connaît bien sur le plateau dont on va déguster.
Exactement.
On va trahir un secret.
Stéphane Reynaud, merci tonton.
Pourquoi ?
Parce que tout simplement, je suis allé bosser de 15 à 20 ans, je suis allé bosser tous les étés là-bas.
Car il faut préciser, Stéphane Reynaud, il a eu pendant de nombreuses années...
La Villa 9-3, à Montreuil.
C'est ça,
à Montreuil,
ouais. Dans le 9-3, voilà. Hein.
Exactement.
C'est pas Montreuil-sur-Mer.
Un superbe resto où je bossais en salle là-bas tous les mois de juin, juillet, août.
Oui.
Pour me faire des sous.
au début, et puis très vite j'ai compris que en fait j'adorais ça.
Par passion.
Par passion. Il m'a transmis vraiment la ferveur et l'envie de tout simplement vouloir accueillir des gens, les réunir autour d'une table et puis leur faire à manger en toute honnêteté, quoi, tout simplement.
En toute honnêteté, c'est intéressant. Exactement. Et en toute sincérité. Comment, un beau jour, on passe du souhait, du fantasme de devenir cuisinier ou d'épouser ce métier à « c'est bon, j'y vais, je plonge ».
L'échec en droit, je crois.
Ah. C'est une bonne réponse.
Du tout. Même si j'avais réussi, je serais parti. Non, l'envie de partir, tout simplement, après 2 années de droit, ça m'intéressait, mais pas au point d'en faire mon métier.
Oui.
Donc, tout simplement, j'ai pris mes valises, je suis parti le plus loin de... Donc en Nouvelle-Zélande.
Oui.
Et là, deuxième choc, donc après avoir travaillé chez mon oncle, deuxième choc culinaire, vraiment une hospitalité dans les restaurants là-bas avec une vraie ferveur de recevoir, de vouloir provoquer une expérience chez le client. Ça m'a vraiment donné envie d'ouvrir le mien, quoi, tout simplement. Quoi.
D'ouvrir le vôtre. Alors, voilà. Il a fallu quand même passer par quelques étapes de formation pour se mettre un peu au niveau où on va atteindre les diplômes qui permettent de se reconvertir.
Exactement.
Et donc, là, du coup, après vos voyages en Australie, en Nouvelle-Zélande, vous vous êtes dit quoi?
Back in France.
Oui.
Et là, je me dis, côté salle, j'ai l'expérience qu'il faut,
oui.
Parce que ça faisait déjà quand même pas mal d'années que je bossais en salle. Il me fallait une touche culinaire, bien que j'avais la passion de manger, de bien boire, avec modération.
C'est bien, merci de le préciser. Jérôme Gagnès, vous n'allez pas commencer.
J'avais envie d'avoir une approche culinaire, et donc la meilleure façon, je trouve, de mettre un pied dans la cuisine, c'était de passer ce fameux CAP de cuisine.
Ah, certificat d'aptitude professionnelle.
Exactement.
Alors attendez, dans l'imaginaire collectif, quand on dit CAP, ça fait un peu, la voie de garage vers laquelle on envoie l'élève de 3e en échec scolaire,
on
ça
n'a
pas très bonne réputation.
Exactement.
C'est CAP, vous voyez ce que je veux dire. En général, ça correspond pas forcément au choix de l'élève. Or, aujourd'hui, on constate que des diplômés ou des surdiplômés comme vous passent par le CAP.
Oui, tout à fait, parce que je trouve que le CAP, ça permet d'avoir une vision globale du monde culinaire.
D'accord.
C'est-à-dire que si on passe son CAP, ça veut dire qu'on est passionné d'une certaine manière. Parce qu'on peut pas passer un CAP de cuisine si on n'est pas passionné par la cuisine.
D'accord.
Et donc à partir du moment où on est passionné par la cuisine, naturellement on va aller voir les producteurs, ou du moins comprendre comment ils travaillent, comment pousse une carotte, comment pousse un navet.
Mm-hmm.
Et ensuite le décliner jusqu'à la cuisine, jusqu'à le servir à des gens, à des invités, à réunir ses potes autour d'une table, quoi.
Déborah Dupont.
Oui, c'est surtout que le CAP contient énormément de travail pratique, et c'est ça ce qui est important, parce que beaucoup de personnes veulent aussi éventuellement partir sur des bacs pro, mais qui sont beaucoup plus théoriques. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai des clients qui viennent en vue d'une reconversion, j'essaye de leur dire qu'il vaut mieux un CAP. Le bac pro, c'est peut-être plus prestigieux de se dire qu'on accroche un bac et ça rassure peut-être certains parents, mais moi j'aurais tendance à dire, n'oublions pas que c'est le CAP où on apprend le métier. Ensuite on complète.
En tout, le CAP c'est 200 spécialités, dont une dizaine de spécialités culinaires. Mmh. Vous pouvez être chocolatier, pâtissier, on va le voir avec vous, Soukeng, ou cuisinier, c'est votre cas, Paul Vincent. CAP mode d'emploi, en quoi cela consiste-t-il? Comment vous avez fait? En l'occurrence, vous l'avez passé en candidat libre.
Exactement.
Donc il n'y avait pas de limite d'âge en particulier?
Non, pas du tout.
Et vous vous êtes tout simplement inscrit?
Sur le site du rectorat, de l'académie, quoi, de notre région.
Avec quels frais?
Zéro.
Zéro.
Il y a quelques frais de dossier, mais qui doivent s'élever à 5 euros maximum.
Donc vous vous inscrivez, je crois que...
Jusqu'à mi-novembre.
Jusqu'à mi-novembre, et ensuite vous le passez en...
Juin.
D'après.
Donc pas de nouvelles jusqu'à la réception de la convocation. Donc faut pas s'endormir, quoi. Faut pas attendre qu'on soit convoqué à des cours.
Et vous l'avez eu.
Exactement.
En candidat libre.
En candidat
libre.
Comment
vous vous êtes formé?
Je me suis formé chez mon oncle. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans une cuisine.
Merci Stéphane Renaud.
Exactement. Merci tonton encore une fois.
Car il faut savoir que le CAP, je crois Soukeng que vous allez le passer en juin prochain justement.
C'est bien ça.
Sauf que vous avez décidé, pour préparer votre CAP, de suivre une formation.
Oui.
Une formation continue dans une école prestigieuse parisienne. Vous voyez laquelle?
Ferrandi à tous les
arts. C'est Ferrandi.
C'est bien Ferrandi, oui.
Comment ça s'est passé?
Alors, j'ai envoyé mon dossier de candidature. Je me suis présentée à une réunion d'information tout d'abord, en janvier. Il me restait 4 jours pour remettre mon dossier de candidature.
D'accord.
Et donc, j'ai écrit une lettre de motivation. J'ai préparé un dossier avec des photos de pâtisserie que j'avais préparées. J'ai remis mon CV. Et au préalable, c'est vrai que j'étais donc en contrat de sécurisation professionnelle via le Pôle emploi.
Oui.
Et donc, j'avais déjà entamé des démarches d'enquête métier. Je suis allée à la rencontre de pâtissiers pour vraiment savoir ce qu'il en était, les contraintes, les points positifs, etc.
Si ça correspondait,
si ça correspondait
au profil que vous recherchez.
Voilà, exactement. Et donc j'ai déposé mon dossier de candidature, j'ai eu un retour assez rapide. Par la suite, au mois de mars, j'ai été reçue en entretien. Et j'ai eu une réponse positive, voilà.
Ouais, en fait, l'école Ferrandi est tellement réputée qu'ils sont obligés de faire un tri dans les dossiers, et notamment, il faut avoir un vrai projet professionnel.
Il faut un vrai projet professionnel,
parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui passent des CAP, que ça soit en cuisine, en pâtisserie ou dans d'autres spécialités de la cuisine, sans forcément un projet de vraie reconversion, mais juste pour le plaisir.
Nous avons demandé quelques chiffres à l'école Ferrandi. Alors, c'est évidemment un succès absolument incroyable. On nous précise d'ailleurs que il y a maintenant désormais 7 candidats pour
une place.
Ouais. On nous dit aussi qu'ils ont été obligés de multiplier leur nombre de formations continues, que les inscriptions ont doublé ces 5 dernières années, avec dans les profils de plus en plus de femmes et de cadres parmi leurs candidats. Vous êtes exactement dans le profil.
Ils ont reçu 150 dossiers l'année dernière. Ils ont sélectionné 24 personnes. Et sur les 24 dans mon groupe, on est 17 femmes et 7 hommes.
Et il faut dire qu'il y a un sacré taux de réussite au CAP, puisqu'il est de
100%.
Non, ça veut dire que tous les candidats à la formation continue chez Ferrandi obtiennent leur CAP.
Oui.
Je vais vous poser la question qui fâche.
Oui.
Combien ça coûte?
Alors, 8 976 €.
Non mais attendez, est-ce qu'il existe, c'est quand même une somme importante.
Oui.
Est-ce qu'il existe éventuellement des bourses, des aides, des organismes qui vous aideraient à obtenir une part du financement?
En général, la plupart des gens prennent un CIF, en fait, un congé individuel de formation. Ils font appel au fonds GESIF. Donc c'est un fonds qui permet de, via l'entreprise, de se faire financer à hauteur, il me semble, je crois, c'est 80... C'est pas à 100% entièrement, je sais plus exactement, parce que c'est pas mon cas.
D'accord.
Sinon, il y a Pôle emploi. Moi, c'est mon cas. En fait, j'étais en licenciement économique. Donc, il y a l'OPCA qui a financé en partie ma formation. Et la seconde partie, c'est l'AIF, donc l'aide individuelle à la formation via le Pôle emploi.
Vous la recommandez, cette formation à Ferrandi?
Oui.
Pour passer votre CAP pâtisserie?
Oui, parce que j'apprends énormément de choses. J'ai deux chefs en or, chef Alain et chef Bruno.
C'est pratique, c'est théorique, vous mettez la main à la pâte?
Alors, beaucoup. Donc, il y a 4 à 5 TP par semaine,
oui,
qui durent entre 5h et 5h30. Et on a aussi des cours théoriques sur la prévention santé, l'hygiène, la technologie.
La gestion, enfin.
La gestion, oui. Voilà.
Pour passer votre CAP en mai ou juin, à quelle sauce vous allez être mangé? Très concrètement, en deux mots, en quoi consiste ce concours CAP pâtisserie?
Alors, 7 heures au total, 4 préparations à faire, 4 productions. Donc on ne sait pas encore, c'est la surprise, mais ce sera un entremets, une tarte, une pâte à choux ou une pâte feuilletée et une pâte levée qui c'est soit des croissants ou des brioches.
Oh la vache.
Donc voilà.
Et donc ça c'est la partie pratique.
La partie pratique, oui. Et ensuite on a une partie théorique, on sera convoqué à un autre moment pour passer la gestion
connaissances professionnelles, enfin, du monde de l'entreprise et juridique, enfin voilà.
Vous connaissez bien le sujet, hein, Déborah.
J'ai vraiment énormément de clients qui sont en reconversion, donc
Et vous allez même aider nos auditeurs à passer leur CAP au moyen de livres de référence. Et d'ailleurs, on va aujourd'hui vous donner ou pas votre CAP. Soukeng Viera dans un instant. On va goûter vos desserts. On vous promet, chers auditeurs, les recettes. Il y a celle de Soukeng Viera, il y a celle évidemment de Paul Vincent. Alors lui, il est relâché, décontracté, il a déjà son CAP, tout va bien. Mais juste avant, quelques conseils livresques de Déborah Dupont.
On va déguster.
Passer son CAP dans les livres, Déborah.
Alors, dans les livres, c'est important, c'est-à-dire que il n'existe pas un livre unique qui permette d'avoir son CAP, puisque comme on l'a dit, il y a effectivement la partie cuisine ou pâtisserie, donc une partie technique, où on met vraiment les mains à la pâte, et puis ensuite, il y a toutes les questions juridiques, gestion, monde de l'entreprise. Donc, on a vraiment plusieurs référentiels. Là, on va plutôt aujourd'hui parler de qu'est-ce qui permet vraiment de taper dedans en cuisine.
Oui.
Alors, pendant longtemps...
Il y en a un tout vieilli.
Alors, il y en a un tout vieilli, les bases de la cuisine, donc de Monsieur Sylvestre et Monsieur Planche, qu'on appelle le plancher Sylvestre dans le jargon.
Vous connaissiez ou pas?
Non.
Celui-là, honnêtement, non.
Non.
Ça a été la référence et j'ai encore des clients qui le cherchent. D'ailleurs, François-Régis, j'ai cru comprendre que si jamais je pouvais vous en retrouver.
Oui, je l'ai vu dès qu'elle est arrivée dans le plateau. Je lui dis, celui-là, il faut que tu m'en achètes un.
Il est rare.
Et je viens le chercher.
Donc ça, oui, ça c'est rare. C'est même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe que ce qu'on demande maintenant pour un CAP. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que le CAP, à l'heure actuelle, ne demande pas autant de connaissances.
Bon, on peut mettre la barre aussi.
Voilà. Ensuite, le livre pour moi de référence, d'ailleurs, qui s'appelle La cuisine de référence aux éditions BPI.
Mais
c'est le livre de Michel Mincent-Morel. Qui date du début des années 90, qui a quand même été vendu à plus de 800 000 exemplaires.
Vous voulez rire?
Non,
c'est un
best-seller.
Alors, c'est une bible, hein. il faut l'imaginer très très visuel. Vous avez une relation un peu, comment dire, cauchemardesque avec ce livre,
non,
Vincent,
que c'est du passé,
la cuisine de référence.
Je me suis inscrit donc mi-novembre au CAP en candidat libre, et donc le lendemain, je vais à la librairie acheter le bouquin, et je rentre chez moi et je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, il y a 1000 pages.
Ouais, 1200 pages.
1200 pages papier de Bible, hein, très très fin, avec des belles illustrations qui datent, je pense, de il y a 20 ans, peut-être.
On va dire que visuellement, il est un peu kitsch.
Voilà.
Hein, c'est ça?
Mais c'est ce qu'on aime aussi.
Et on va le confier à Jérôme Gagnès, qui va désormais apprendre à lever des filets de saumon. Voilà. Regardez comme c'est précis. Non, travail incroyable.
Non,
moi, je l'ai personnellement dans ma cuisine, et je peux vous assurer que on le consulte régulièrement quand on veut une précision.
Exactement.
Sur un geste, etc.
Il est très précis.
Et il coûte pas cher, en plus.
Il coûte 33 euros. Il est en deux parties. Une première partie avec toutes les explications vraiment par produit. Donc ça va effectivement nous apprendre à lever des filets de poisson, à tailler une julienne, à comprendre la différence entre la julienne et la brunoise, à apprendre aussi, enfin, à s'occuper de la viande, à couper un poulet en 4, en 8, en ce que vous voulez, avec énormément de photos. Alors effectivement, papier Bible, pas de design culinaire, clairement, il n'y a pas de direction artistique hein, dans ce livre. Et la deuxième partie, on est sur des fiches techniques, donc des fiches techniques telles que vous les avez en cours quand vous passez le CAP avec un enseignement, ou telles que vous êtes censé quand même, quand vous êtes en candidat libre, savoir le faire, puisque à l'examen du CAP, on vous fournit aussi de la fiche technique pour calculer les coûts matières, pour calculer tout ça. Donc il faut avoir eu l'habitude de lire ce genre de format, ce qu'on n'a pas chez un éditeur grand public.
C'est ça.
Clairement. Donc c'est pour ça que pour moi, Cuisine de référence est effectivement le livre indispensable en cuisine. Des éditeurs concurrents ont voulu faire des copies, mais pour moi, il reste très clairement au-dessus du lot.
Et là, on évoque le CAP Cuisine. Hein.
On évoque le CAP Cuisine.
Ça veut dire que pour la pâtisserie, Soukeng Bira, par exemple, vous avez éventuellement d'autres supports, à part les cours, évidemment, de vos professeurs de Ferrandi.
Alors, les clés de la réussite, je ne sais pas si vous connaissez.
Mais les clés de la réussite, c'est très élitiste.
Mais c'est très, très précis, voilà.
Sur la pâtisserie.
Sur la pâtisserie. Mais bon, c'est vrai que c'est très, c'est plutôt élitiste. Après,
on a le livre du pâtissier, Devenir pâtissier à l'INBP, qui est vraiment très bien fait. En fait, en cuisine, le Mincent se détache clairement au-dessus du lot. En pâtisserie, on a 4 ou 5 livres un peu concurrents qui vont être
d'accord.
Du même niveau. Et là, c'est plus une sensibilité de mise en page. Ce que je dis aux clients, c'est vous feuilletez, vous regardez et vous serez plus sensible à une mise en page. En cuisine, pour moi, le Mincent est quand même clairement, enfin, au-dessus du lot, surtout quand on doit le préparer tout seul, ce CAP, parce que c'est vraiment pas évident.
Bien sûr. Déborah Dupont nous a d'ailleurs préparé une petite bibliographie consultable
sur le site
franceinter.fr.
Tout à fait.
À la page, on va déguster. Pendant ce temps-là, j'ai attaqué les poireaux vinaigrettes de notre ami Paul Vincent. Oulala, c'est bien. On va s'aménager une petite pause musicale. Vous nous expliquez juste après.
Avec plaisir.
Comment on les prépare et éventuellement comment on les retwiste un peu. Il y a évidemment, bien sûr, les douceurs de Soukeng Viera, comme cette tarte au citron et ses cookies sans gluten. Il y a le vin d'un vigneron, tout frais, tout jeune, que nous portraiture Jérôme Gagnès.
Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody. To know me best, you chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know.
We're connected. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know we're connected by
pour devenir cuisinier, pâtissier ou vigneron. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui autour du plateau dont on va déguster avec nos deux invités. Paul Vincent, auteur de Le cuisinier en candidat libre chez Marabout. Vous allez d'ailleurs nous expliquer dans un instant deux recettes extraites de ce livre, vous, qui est un véritable cahier de cuisine, avec, on va le voir également, des quiz qui peuvent aider à renforcer ses connaissances à l'approche d'un examen. Et puis, Sue Keng Viera, qui est en pleine formation à l'école Ferrandi. En ce moment, vous êtes en stage.
Je suis en stage, oui, chez un compagnon du devoir à Bailly-Romainvilliers, monsieur Dominique Clerc. Ça se passe très bien. J'apprends plein de choses, ouais. Et mon second stage qui démarra le 5 mars jusqu'à fin avril au Mandarin Oriental.
C'est ça, juste avant l'examen, en quelque sorte.
C'est bien ça. Après, je reprends deux semaines de cours pour nous remettre un peu dans le bain, voilà, histoire de. Et ensuite, convocation à l'examen.
Petite question d'Hélène Michaud, une auditrice à Fontainebleau. Le CAP garantit-il de trouver un emploi dans les métiers de bouche? Qui veut répondre?
Moi, je pense oui, parce que c'est toujours bien de... C'est plus crédible, forcément, un diplôme.
Mais est-ce que c'est la garantie d'avoir un débouché? Est-ce que c'est l'assurance de trouver un emploi?
Vraiment, dans le milieu de la restauration, c'est un des milieux où je pense qu'on peut rentrer le plus facilement possible.
C'est vrai.
Si on a besoin d'un boulot, on peut aller, on peut demander à être serveur, il n'y a pas de souci.
Il y a beaucoup d'opportunités.
En cuisine aussi, on ne demande pas forcément un diplôme, quoi. Mais après, c'est super intéressant de passer par un CAP, quoi.
Et en l'occurrence, votre CAP vous amène où, Paul Vincent? Vous avez eu des expériences dans la restauration et vous avez, je crois, un projet.
Exactement. J'ai un projet de création d'un deuxième restaurant.
Oui. Pourquoi deuxième?
Parce que j'en ai ouvert un il y a deux ans.
D'accord.
Un bar à tapas. Voilà, dans le 11e.
Oui.
Et maintenant, je vais me consacrer à un nouveau projet.
D'accord.
Dans la deuxième partie de l'année 2018, j'en dirai pas plus.
Oh là là.
Secret.
C'est pas drôle.
Secret. Je reviendrai vous voir.
Et éventuellement, vous nous informerez.
Avec
vous
grand
aurez...
plaisir.
Ça va être à Paris?
Oui.
Très bien. Sue Keng Viera, même question.
Alors, mon projet, ce serait de créer un laboratoire dédié au sans gluten, en fait.
Oui.
Et de proposer donc des pâtisseries sans gluten, voire sans lactose et réduites en sucre.
Ah.
Pour des restaurateurs, des traiteurs, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas des laboratoires qui sont forcément dédiés pour ça.
C'est vrai.
Liés à la contamination croisée, en fait.
Absolument.
C'est en réflexion, en fait, de comment les emballer pour pouvoir les certifier sans gluten.
Jérôme Gagnez.
Pourquoi, alors sans lactose et sans gluten, on comprend bien, mais pourquoi avec moins de sucre? Pourquoi ceux qui sont intolérants au gluten et au lactose sont collés au régime comme ça d'office avec moins de sucre?
Alors non, ça sera pas. Alors le réduit en sucre, ça s'adressera plutôt à des personnes, voire même sans sucre. J'aimerais bien pouvoir travailler pour des personnes qui sont diabétiques en fait. Le sans gluten et sans lactose ne va pas forcément avec le sans sucre.
Ah,
Paul Vincent, est-ce que dans ce restaurant secret dont vous ne voulez pas nous révéler l'identité, vous servirez des poires aux vinaigrettes?
Ah oui, bien sûr.
Ah bon?
Classique.
Et de quelle façon, voudrait le savoir? J'ai bouloté vos poires aux vinaigrettes, je peux vous dire qu'ils sont extraordinaires. Vous savez pourquoi?
C'est très gentil.
Parce qu'ils sont fondants, mais ils gardent un peu de fibre et de matière et j'aime bien ça en bouche.
C'est
ils
très
ont
important.
Une jolie couleur.
Il ne faut pas que ce soit une purée de poireaux non plus. Il faut garder un peu le croquant, les feuilles qui se détachent toutes seules. Et puis, j'ai décidé de mettre un petit œuf mimosa dessus.
Définition.
Voilà. Donc, œuf dur, mais qui n'est pas exactement mimosa, parce que mimosa, c'est mayonnaise.
Mm-hmm.
Et là, on a une vinaigrette, donc toute simple, moutarde, vinaigre de balsamique, huile d'olive,
d'accord.
Sel, poivre, et on envoie.
Et vous émulsionnez un peu.
Bien sûr.
Pour obtenir une texture un peu nappante.
Exactement.
Comment on s'y prend pour la cuisson des poireaux vinaigrettes?
Cuisson à l'anglaise.
Définition.
Alors, cuisson à l'anglaise. Dans une casserole,
oui.
Versez un petit peu d'eau,
oui.
Faites-la bouillir avec du sel, bien sûr.
C'est ça, la cuisson à l'anglaise.
Et voilà. Et ensuite, on attend, on pique le poireau.
C'est combien de temps à peu près la cuisson à l'eau bouillante?
Donc si c'est des petits poireaux, à partir de 5 minutes, Des gros poireaux, plus une dizaine de minutes, voire un quart d'heure. Il faut piquer le poireau, de toute façon.
Pardon, mais c'est pas clair, là, votre histoire. Vous en mettez combien d'eau dans la casserole?
On le plonge en bouillante.
Oui, non, mais parce qu'on met un petit peu d'eau.
Non, bien sûr.
Oui. Non, encore une fois, je pose une question.
Non, mais vous avez raison. Il faut être précis.
Pour que ce soit parfaitement intelligible, la cuisson à l'anglaise, c'est cuisson à l'eau.
Et puis après, si je peux me permettre, après, on les glace direct.
Vous les plongez dans l'eau glacée.
Voilà, exactement. Avec ou les passe sous l'eau froide glacée, quoi, si on n'a pas forcément de glaçons.
D'où ce beau vert printanier.
Exactement. Mmh. Mais ça fixe la chlorophylle.
Justement, est-ce que un poireau vinaigrette, qui a un débat aussi là-dessus, est-ce que c'est que le blanc? Est-ce que c'est du blanc et du vert?
Non, il faut du blanc et du vert.
D'accord.
Voilà, c'est très important. On gâche le moins possible. Et puis avec le reste des fans, on se fait un bouillon.
Eh ben, vraiment, voilà. Bravo. On passe au sucré avec Suken Vira. Petit commentaire de dégustation de Déborah Dupont sur ces cookies sans gluten.
C'est surtout que, justement, là, le cookie sans gluten, typiquement, même s'il est réduit en sucre, on sent quand même bien le goût du sucre. On est quand même sur un cookie, on ne peut plus gourmand, on ne peut plus croquant et fondant. Et franchement, Jérôme, je suis persuadée que les yeux fermés, vous n'auriez pas deviné que c'était sans gluten.
J'ai pas de problème a priori avec le sans gluten. Je suis pas intolérant au gluten, donc ça me permet de... beaucoup de liberté. J'aime bien qu'un dessert soit sucré. Enfin, j'ai eu l'occasion déjà de le dire. J'aime bien qu'un dessert soit sucré.
Là, il l'air, il n'y a pas de souci.
Oui, il est sucré. Le cookies, il est sucré. Il y a du sucre.
Oui, quand même, on le sent. Il y a même des petits trucs qui ça croquent bien, sous les molaires. Je crois déceler de la noix de pécan, non?
Noix de pécan, c'est bien ça.
J'ai la recette sous les yeux.
Oui, non, vous avez la
C'est vraiment, vraiment... Non, franchement, c'est une réussite, non? En fait, la réussite d'un dessert sans gluten, c'est quand, comme vous le disiez, on ne décèle
pas. Les yeux fermés, on décèle pas.
Qu'il n'y a pas de farine. Mais du coup, quelle est la stratégie là pour obtenir cet effet?
Alors, moi j'utilise de la vergeoise avec
du sucre.
Voilà, vergeoise blonde ou brune, hein, comme vous voulez, pour la coloration. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, du beurre pommade que je travaille, voilà, avec les deux sucres. Je rajoute un œuf et ensuite on passe au mix farine. Et là, c'est important parce
le mix farine, c'est censé remplacer.
C'est censé remplacer
une farine de blé.
Exactement. On peut pas remplacer la farine de blé avec une seule farine. En fait, on est obligé de les mixer. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que moi, ma base de travail, c'est la farine de riz parce que c'est celle qui a le moins de goût, qui se rapproche peut-être un petit peu plus, voilà, de la farine de blé. Mm-hmm. Et je mélange donc avec de la poudre d'amande et de la maïzena.
Oui, c'est la fécule de maïs.
Mm-hmm. Voilà. Et on mélange voilà les trois farines ensemble avec un petit fouet pour bien les incorporer ensemble.
Très bien.
Moi, en général, je travaille les cookies avec un robot. Donc, je mets mon beurre pommade, mon sucre. Mm-hmm. Ensuite, je commence à travailler avec la feuille. Je rajoute mon œuf. Ensuite, d'un seul coup, la farine, la levure, un peu de sel et de la vanille liquide ou en poudre, comme vous préférez. Hein.
Très bien.
Voilà, et ensuite, selon vos goûts, moi j'adore chocolat noir, noix de pécan, cranberries, j'adore ce
formidable
mélange.
Chocolat noir, alors c'est en pépite?
Pépite, non, moi je prends des de la tablette. D'accord. Que je concasse, parce que je trouve ça meilleur.
Mais vous avez raison.
Ça permet de faire des gros éclats
de chocolat noir.
Des noix de pécan.
Et des noix de pécan.
Et cranberries, là vous évoquez une baie qui nous vient d'outre-Atlantique. Cette baie un peu acidulée.
Acidulée,
hein.
Oui.
Cranberelle?
Non. Cranberry, c'est canneberge en bon français.
C'est la canneberge, pardon.
Absolument, la cuisson?
Alors, 180 degrés pendant 12 à 13 minutes en fonction du four. Voilà. Ouais.
Et j'aurais un petit conseil, c'est que les cookies, par définition, quand on les sort du four, ils sont encore mous. Donc, il ne faut surtout pas les remettre à cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent durs. Sinon, on se casse une dent.
Très bien. Et bien, c'est ça qui est super. C'est effectivement le moelleux à l'intérieur. Ils sont absolument pas secs.
Ils sont délicieux.
Bravo, vous êtes jaloux, Paul?
Oui, je pense que vous allez l'avoir sans problème. Oui, voilà. J'ai eu mention quand même.
Il y a des systèmes de mention?
Oui, bien sûr.
Ah, d'accord. Quelle mention?
J'ai eu.
Ah, c'est bien, d'accord.
13,5.
Donc c'est une mention.
C'est bien.
Ah,
c'est
oui,
bien.
D'accord.
C'est bien.
Très bien, vous êtes content?
Oui.
C'est bien. Parfait. Est-ce qu'il y a une petite sensibilité dans cette formation ou dans le CAP au sans gluten, justement? Est-ce que les formateurs de l'école Ferrandi sont préoccupés par un problème qui, évidemment, ne concerne pas que 2-3 cas isolés? C'est devenu un fléau.
C'est devenu un fléau, oui. Et ils proposent notamment là une nouvelle formation en fait sur le sans gluten, le vegan et la pâtisserie healthy.
Là, qui vous parlez de la pâtisserie bien-être.
Voilà, bien-être, qui aura lieu au mois de juin chez Ferrandi.
D'accord. Donc, c'est
un module complémentaire. Hein.
Que vous allez suivre.
Que je vais suivre, voilà. C'est un coût supplémentaire aussi.
Très bien. Dans un instant, deux autres belles recettes. Un gigot d'agneau signé Paul Vincent et une tarte au citron sans gluten, là encore, de Suken Vira, mais tout de suite une très belle histoire de reconversion dans la viticulture.
On va déguster sur France Inter.
Le bouchon.
Il était un peu faiblard celui-là.
Ouais, un petit plop.
On fera mieux la prochaine
fois. Un peu timide.
Le vigneron ne l'est pas timide en l'occurrence.
Ah bon?
Non. J'étais au Salon des Vins de Loire, au Salon Renaissance, pour être plus précis, au Grenier Saint-Jean. Très joli salon.
C'était quand ?
C'était tout début février. Et on goûte là des vins de Loire et d'ailleurs. Et puis, c'est quand même dans la Loire que j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire un jeune vigneron. À moitié jeune, il a 40 ans, mais un vigneron jeune, en tout cas, dans sa pratique du métier. Il était dans la com à Paris, avec son épouse, et ils en avaient marre, en fait, tout simplement. Et puis, il y a eu un déclic, c'est qu'il buvait pas de vin, ce garçon. Il s'appelle David Foubert, et David, il boit pas de vin, jusqu'à l'âge de 30 ans, un peu plus. Et un beau jour, dans un bar à vin, il boit un coup. Et il trouve ça formidable.
Révélation.
Et comme il le dit, d'habitude, c'est pas parce qu'on a une révélation et qu'on goûte du vin et qu'on aime qu'on se met vigneron. Lui, si. Donc il a tout plaqué. Il en avait marre de sa vie à Paris. Il s'en va avec sa femme et ils ont un bol extraordinaire. Parce que là, pour le coup, quand même, au moins de temps en temps, le destin s'en mêle et de façon positive, c'est que il rentre en contact avec un vigneron exceptionnel qui a pris sa retraite. C'était vraiment le bon timing. Qui s'appelle Philippe Gourdon. Et Françoise Gourdon du château La Tour Grise. Et donc, il reprend 4 hectares de Philippe Gourdon.
Dites-nous où nous sommes, Jérôme.
Nous sommes à Saumur, plus précisément dans l'appellation Saumur puis Notre-Dame. Mm-hmm. C'est une toute jeune appellation avec une particularité, je tiens absolument à le dire parce que c'est assez extraordinaire. C'est Philippe Gourdon, entre autres, mais quand même beaucoup lui, qui a contribué puissamment à la création de cette appellation. Pour le remercier, au premier ou deuxième millésime, ils l'ont foutu dehors avec des vins qu'il a mis en vin de table. Donc, un petit salut amical aux dégustateurs de l'ODG de Saumur puis Notre-Dame qui, éventuellement, à l'occasion, passeront s'acheter un palais. Ceci étant dit, on poursuit et donc Philippe s'entend bien avec David et donc il récupère 4 hectares. Et il faut dire que Philippe, il était en Budamie depuis une vingtaine d'années. Il était et il avait des vignes. C'est le nôtre. C'était un jardin extraordinaire et donc il a une chance folle, c'est qu'il récupère des vignes dans un état exceptionnel. Et ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que ce garçon n'a pas de moufle quand il vinifie et donc il a sorti des très jolis vins.
Ah.
Ouais. Il a sorti des très jolis vins.
Les premiers millésimes datent de quand ?
2014, je crois, ou 2013. Et on a ici des 2015, et on a un très très joli vin. On commence avec un blanc, ça s'appelle la cuvée des Amandiers. Il a repris le nom, là pour le coup il a poursuivi l'œuvre de Philippe et Françoise Gourdon. Donc les Amandiers, c'est une parcelle en appellation Saumur, une parcelle de vin blanc. C'est des calcaires tendres, c'est des calcaires jaunes, le tuffeau. Et c'est un pur chenin, il fait de longs élevages, et ça c'est bien, je trouve ça formidable. 18 mois en fût, pas de fût neuf, des fûts anciens, ça marque pas le nom de son empreinte. Ensuite, 6 mois en bouteille, les vins ont le temps de s'épanouir. C'est absolument superbe. On a un chenin puissant, mûr, vif. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que 2015, c'est un grand, grand millésime de blanc dans la Loire. Ça a donné des chenins pleins, harmonieux, avec des belles acidités.
Oui.
Donc un très beau vin de gastronomie, un très beau vin tout court. Les Amandiers, 2015.
Vous aimez, Paul Vincent ?
C'est délicieux.
Vous l'avez goûté ?
Ça reste longtemps en bouche, c'est parfumé.
C'est vrai que c'est long. Hein.
C'est
en même temps, le chenin, effectivement, aromatiquement, ça s'étale.
Très gourmand.
Il y a un raisin fabuleux et donc une minéralité qui s'exprime en
2015.
Finale. 2015, c'est un vin qui ira très loin. Ça vaut 14 euros
non.
Au domaine.
Ah, je craignais le prix. ça reste raisonnable.
C'est quasiment du bénévolat bon. À ce prix-là, parce que c'est vraiment extraordinaire comme vin. Et il y a très peu de régions dans lesquelles on trouve des vins blancs aussi racés et aussi beaux à ce prix-là.
C'est vrai.
On lorgne un peu plus à l'est, ça devient carrément rutilant et hors de prix. C'est plaqué or dans la qualité de ces vins quand on est en Bourgogne. Alors donc la Loire, ça s'appelle le domaine s'appelle la Folberte. Et puis on va goûter un deuxième vin, un rouge.
Toujours du même domaine ?
Toujours du même domaine.
Oui.
On est là sur une parcelle qui s'appelle les Vignaux et cette parcelle, elle est assise sur un terroir de calcaire très dur. Donc on va avoir des vins avec un caractère beaucoup plus tranchant, plus vif. Et 2015 nous offre une maturité pleine, des raisins qui étaient gorgés de soleil et en même temps avec de franches acidités. Ça donne un rouge tout à fait harmonieux, puissant, complexe, un vrai rouge de garde et qui pourtant se boit très bien aujourd'hui. Je suis très enthousiaste sur ces vins parce que vraiment ce sont des très jolis vins. Et ce sont des vins de gastronomie. Celui-là, pour être tout à fait franc, on pourrait déjà en boire un petit magnum avec un copain ou une copine.
Avec modération, Jérôme.
Oui, modération restera à la cuisine. Nous, on sera au salon et comme ça, on mangera des bons saucissons.
Je le redis pour nos auditeurs, avec modération.
Oui, non, mais bien sûr. Cette cuvée de rouge s'appelle la Grande Berthe 2015. Vraiment, je suis très enthousiaste sur ce vin et c'est une très belle reconversion. Parce
c'est légèrement perlant, hein.
Oui, il y a
un petit peu de gaz.
Comme souvent, quand on cherche à abaisser considérablement les doses de soufre pour ne pas trop bloquer les vins, on a toujours un tout petit peu de gaz. En fait, le vigneron laisse ce gaz carbonique qui est dans le vin au cours de la fermentation. Il ne dégasse pas complètement ses vins parce que c'est un conservateur, le gaz carbonique. Et ça vaut 18 euros, ça vieillira 20 ans. Donc, à ce prix-là, franchement, c'est vraiment une affaire, c'est un très joli domaine. Bravo, David Foubert. On est à Saumur, puis Notre-Dame, dans le Maine-et-Loire, à quelques encablures d'Angers. Et voilà un garçon qu'il va falloir suivre de très près.
Toutes les références des vins que vous avez évoqués, les cuvées que vous avez évoquées, Jérôme Gagnès, sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Merci beaucoup. J'ai envie de vous piéger, Paul Vincent.
Allez-y.
Car l'originalité de votre livre, c'est de présenter évidemment des recettes, des classiques que vous avez apprises à travers votre CAP, mais également des recettes un peu revisitées. Et il y a également des antisèches qui, alors, n'ont pas la prétention de vous former au CAP, mais qui, en tout cas, ont le mérite de vous remettre un peu sur les rails concernant certaines connaissances. Vous l'avez bien écrit, votre livre ?
Ah oui, ça c'est sûr.
On va le vérifier.
C'était il y a un petit moment.
Allez, du tac au tac, hein. Vous êtes prêts ?
Allez.
Citez quatre variétés de pommes de terre.
Alors, la Grilla, la Binche, Rat et on va dire Mona Lisa.
Très bien. La composition d'une sauce béarnaise.
Sauce béarnaise, on a de l'estragon, on a beurre, jaune d'œuf, vinaigre, vin blanc. Sel, poivre.
Il est embêtant celui-là. Bon, la saison des asperges.
Ça commence fin avril, mai, juin, maximum. Après, elles viennent pas de France.
Très bien. En ce moment, elles viennent plutôt du Chili ou du Pérou, ouais. Donc on oublie, on est bien d'accord.
Exactement.
J'avais prévu de vous demander ce que c'était qu'une cuisson à l'anglaise, mais enfin ça, je pense que vous avez fait vos preuves. Quelles sont les étapes de rinçage des coquillages?
Alors, il faut d'abord les faire dégorger dans un gros volume d'eau avec du sel. Ça permet d'enlever un peu tout le sable, ce qui est très désagréable quand on les mange. Donc il faut vraiment les brasser, puis les enlever dans un deuxième volume d'eau.
Très bien. Alors attention, test. Cuisson des œufs en minutes. Vous êtes prêts? Mais la condition, c'est de répondre très vite. Un œuf à la coque.
3.
Un œuf dur.
10.
Ah, parfois ça peut être 9.
Oui, 9. Tout dépend de la taille.
Oui, c'est vrai, tout dépend de la taille.
Et l'altitude.
Mais pour que le jaune... C'est vrai, non, mais vous avez raison. Pourquoi vous dites ça, Déborah?
Parce que Jean Sulpice avait une anecdote quand il était à Val Thorens à 2300 mètres, où effectivement, c'était pas du tout 3 minutes.
C'est ça, c'était plus ou moins, je sais plus d'ailleurs, mais c'était différent.
C'était totalement différent.
Un œuf mollet.
5 minutes.
Un œuf poché.
4 minutes.
Oh là là, bon, bah, j'ai pas réussi à le piger, c'est pas drôle. Bravo, Paul Vincent.
Merci.
Je vous re-signe un CAP.
Parfait. Voilà.
Parce que je suis.
Deuxième mention.
Je suis beau joueur, et pendant que vous y êtes, là, Jérôme Gagnès est en train de se servir, vous nous avez carrément apporté un plat allant au four, dans lequel vous avez fait mijoter pendant très longtemps, puis rôtir un gigot d'agneau.
Exactement.
Racontez-nous, parce qu'il nous reste malheureusement assez peu de temps et on voudrait aussi la recette de tarte au citron.
En deux mots, en fait, donc c'est l'esprit du bouquin, le gigot d'agneau classique du CAP.
Oui.
C'est thym, huile d'olive. Et ben moi, j'en propose une deuxième version.
Oui.
Donc version hors-piste, c'est un peu l'esprit du bouquin.
Version hors-piste, ça j'aime
voilà.
bien.
Et donc c'est un mélange d'épices, il y a des graines de coriandre, des graines de cumin, il y a du piment de Cayenne. On mélange tout ça, on fait une pommade avec du beurre. Et ensuite, sel, poivre, un peu d'ail, du thym. On masse bien tout le gigot.
Oui.
Aller-retour, on masse
avec
tout,
ce beurre qui a été mélangé avec des épices.
Voilà, on mélange tout, on fait une pommade.
D'accord.
On fait une pommade qu'on applique sur toute la partie du gigot. Et ensuite, on le cuit pendant 5 heures.
Longtemps, ouais.
Voilà, exactement. Et on l'arrose très souvent, en fait. C'est ça, la clé.
Quel thermostat?
150, 170.
5 heures à 150, 170. Et la clé, vous dites,
c'est
l'arrosage.
La clé, c'est de l'arroser. Pour éviter qu'il devienne trop sec.
À quel rythme?
Moi, je le fais toutes les 20 minutes parce que j'aime bien quand il est bien, bien juteux.
Verdict, il fait carrément des accords, mais ben, il s'est parmi notre émission d'il y a 15 jours. Jérôme Gagnès, c'est bon ou pas, Gigot?
C'est très bon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette marinade et ces épices ne masquent pas du tout le goût de l'agneau. On a bien les deux. C'est très harmonieux.
Merci beaucoup.
Et puis, c'est très bien cuit.
Très bien.
Et vous avez même du pain de chez Benoît Castel, un super boulanger dans le 20e arrondissement, où je viens juste d'aller chercher un pain ancien. Et on peut saucer tout le plat avec. Mmh. Et c'est délicieux.
Et encore, François-Régis, vous n'avez pas la sauce qui est dans le plat, mais il va falloir saucer.
La texture est formidable. Et ce qui est épatant, c'est que vous nous le servez froid quand même. Formidable.
Je l'ai fait cuire toute la matinée, le temps d'arriver en scooter. Il a refroidi un petit peu parce qu'il fait froid en ce moment.
Bravo. Vous saviez ça aussi dans votre restaurant secret?
Bien sûr.
Bon, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. On finit avec la petite touche acidulée et sucrée de Soukeng Viera. Alors moi, toujours sans gluten.
Toujours sans gluten, mais je me suis inspirée de la recette du livre Pâtisserie de Ferrandi, oui, aux éditions Flammarion.
D'accord.
Donc je suis partie de la recette de pâte sucrée et j'ai retravaillé le mix farine en fait. Donc pour la pâte sucrée au citron,
oui,
donc il faut 75 g de beurre,
oui,
40 g de sucre glace, 15 g de poudre d'amande et 0,5 g de sel,
d'accord,
5 g de zeste de citron qu'on met dans la cuve du robot, muni,
oui,
de la feuille.
D'accord.
On mélange bien jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ensuite, on rajoute l'œuf et la farine.
D'accord.
Donc, on obtient une pâte qu'on va aplatir à la main, filmer au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Sachant que l'œuf et la farine, on a compris qu'on était donc sur un mix de farine
mix de
pour
farine.
Remplacer la farine de blé.
La farine de blé, donc c'est 50 g de farine de châtaigne, 50 g de farine de riz et 25 g de fécule de maïs.
Très bien.
Voilà. Et ensuite, on fonce donc la
définition de foncer. Eh oui,
oui,
c'est pas rendre noir.
Oui, mais non, du tout. Donc, on étale la pâte, voilà, pour qu'elle soit bien le plus rond, voilà,
c'est
plus
ça,
rond possible.
On l'installe dans son moule.
On l'installe dans son moule, voilà, avec les doigts, dans un cercle qui est déjà beurré.
Et vous avez un diamètre de moule.
22 cm de diamètre.
D'accord.
Et ensuite, on laisse reposer la pâte au congélateur pendant une trentaine de minutes,
uh-huh,
pour qu'elle soit bien bien froide et pour pouvoir la cuire à blanc, c'est-à-dire la cuire au four toute seule.
Pour,
voilà,
éviter qu'elle se réfracte à la cuisson.
Exactement, sans son appareil. Oui.
Sans son appareil. Mm-hmm. Et pendant 20 minutes, à 170 degrés.
Très bien.
Et donc, une fois cuite, on la laisse refroidir tranquillement. Et pendant ce temps, on prépare sa crème au citron.
Ah, ben ça, on veut... Mais juste pour le suspense de la crème au citron, déjà un petit avis, Déborah Dupont, vous êtes vraiment, vraiment très bec sucré. Qu'est-ce que vous pensez de cette tarte ?
Justement, elle n'est pas sucrée, c'est ce que j'aime dans la tarte au citron. Il faut de l'acidulé, il faut que ça explose un peu en bouche, et là c'est clairement le cas. Sur la pâte, on voit qu'on n'est pas sur une pâte classique, parce que la texture est plus friable. Elle est très très bonne, mais on se rapproche presque de la pâte des cheesecakes en fait, avec ce côté un peu sablé, un peu biscuit.
Exactement.
Mais très très bon, et la petite gelée par-dessus.
Et la crème de citron, vous allez nous en donner la recette, là, oui, ça électrise les papilles. C'est vrai qu'on est, sur une acidité fruitée qui met des petits pics dans le palais, comme ça, c'est très intéressant.
Oui, alors moi, ce que j'aime bien faire, j'utilise du citron jaune, mais j'aime bien ajouter un citron vert, en fait.
Et ben voilà.
Voilà.
Comme un certain Jacques Genin.
Exactement.
Qui est de son état à Paris.
Donc, il y a 150 g de jus de citron,
oui,
dont un jus de citron vert, voilà.
Oui.
150 g d'œufs, 120 g de sucre et 3 g de gélatine en feuilles. Et enfin, on rajoute 75 g de beurre. Donc, dans un cul de poule, une bassine, on mélange le jus de citron, les œufs et le sucre à l'aide d'un fouet, mm-hmm, qu'on va cuire au bain-marie jusqu'à épaississement, en fait, de l'appareil. Et hors du bain-marie à 60 degrés, on ajoute les feuilles de gélatine préalablement hydratées,
oui,
avec de l'eau froide.
Mm-hmm.
Idéalement, une demi-heure avant, ce serait bien. Et ensuite, on rajoute le beurre et on passe un coup de mixeur plongeant pour que l'appareil soit bien lisse.
Oui.
Et on réserve au frais pendant une heure. Voilà.
Magnifique.
Et le montage, tout simplement, le fond de tarte...
Qui a cuit.
On rajoute voilà la crème au citron.
Elle ne recuit pas la crème de citron, faut bien le préciser.
Non,
hein.
Non, ne la repasse pas au four.
Oui.
Et moi, je rajoute donc un nappage neutre en fait par-dessus. Et là, je l'ai agrémenté en fait de suprême de citron vert, de meringue italienne et de meringue française.
Mais bravo. Hein.
Voilà.
Non, mais vous l'avez, c'est CAP, non ?
À mon avis, oui. Il n'y a pas grand suspense.
Promis,
mais...
révélera s'ils sont bons vos résultats à l'antenne.
D'accord.
En juin prochain, félicitations pour cette tarte au citron. Je suis,
merci,
sûr que nos auditeurs, mangeurs sans gluten ou pas d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire une petite pause sur le gluten sans être forcément intolérant et se ruer sur votre recette de tarte au citron sans gluten. Bravo aussi pour vos cookies très moelleux. Bravo Paul Vincent, le
merci
cuisinier en candidat libre aux éditions Marabout avec les photos d'Edouard Ducos. C'est votre livre qui est sorti il y a pas très longtemps. Et on encourage nos auditeurs à le consulter. Soukeng Viera, eh bien écoutez, bonne chance. Hein.
Merci beaucoup.
Bon courage pour vos stages. Au revoir Déborah.
Au revoir.
Au revoir Jérôme.
Bonne semaine.
Au revoir à tous. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.
Et un grand merci à vous François-Régis Gaudry. J'en profite pour vous signaler que Soukeng Viera a obtenu son CAP et brillamment même, avec une moyenne générale de 16,16 sur 20. Quant à François-Régis Gaudry, on le retrouve dès 11h dimanche prochain pour une émission consacrée à la cuisine de Joël Robuchon. À suivre 1918, un monde en révolution.